Itinéraire d'un lecteur gâté, épisode 3.
Cher Gislain, cher ami, cher compagnon de route et désormais co-animateur, me voilà bien embarrassé, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, la durée de notre podcast, le dernier épisode que nous allons bientôt mettre en ligne dure 1h40, mais on est d'accord, Gislain, pour dire qu'un itinéraire de lecteur, ça ne se raconte pas en 5 minutes.
Tout à fait, puis en plus, vu qu'on a prévision de concurrencer James Cameron avec la durée de ses films, on est très très bien parti.
Ça ne va pas s'arrêter là. Puis alors, il y a autre chose qui me chagrine, qui me rend chafouin, comme dirait notre précédent invité. Il y a les assauts répétés contre la démocratie. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Parce que je sais que tu as, en ces temps troublés, l'âme d'un résistant.
En effet, résister. De David Pepper à Salomé Sacquet, résister est un leitmotiv. Autant qu'une invitation, autant qu'une nécessité. On pourrait même dire nécessité absolue. Résister à la simplicité, réenchanter cette complexité qui nous fait réfléchir, qui fait honneur à la richesse du monde et qui rend hommage aux nuances de la réflexion. Alors oui, Yann, résister. Résister pour réexister, en tant que citoyen, en tant que faiseur de commun, en tant que faiseur de monde. Car être hors de soi, c'est aussi penser par-delà notre microcosme. Et puis, résister, c'est résister avant l'obscurité, avant que nous ne puissions plus lire ce qui fut, avant que nous ne puissions plus écrire les lignes de notre libre destin. À dessein résister, en chantant, en écrivant, en lisant, en partageant, bref, en agissant. Résistants de tout pays, mobilisons-nous. Ouvrons nos yeux autant que nos cœurs. Ouvrons les livres qui inspirent autant qu'ils invitent au dialogue. Ouvrons aussi nos trousses qui abritent les stylos pour écrire un monde humaniste, les stylets pour les tablettes, mais surtout pour transmettre, et les crayons pour dessiner nos rêves. Résister, Yann, c'est choisir. Alors je vous propose aujourd'hui de choisir ensemble, choisissons. Sous peine de n'être qu'un gisant.
Bon, la perspective du gisant ne me rassure pas beaucoup non plus.
C'est la digestion, à l'heure à laquelle nous enregistrons, c'est peut-être ça.
C'est ça, c'est la digestion. Et dis-moi, tu as fermé Twitter? Enfin, X, est-ce que tu aurais ouvert Blue Sky par hasard?
Non, pas encore, non. Et je ne sais pas si je vais le faire. J'attends peut-être la livraison d'un cadeau particulier ou alors le glissement d'un chèque sous ma porte pour m'encourager à aller de ce terrain-là. Mais peut-être que j'irai du côté du dinosaure, là, du mastodonte. Mais j'avoue que j'y réfléchis encore. Ai-je besoin de tout ça encore?
C'est comme ça, toi. Il te faut un chèque pour... Tu es sur les réseaux sociaux.
Ah ben oui, on a parlé de démocratie, on a parlé de résistance, un petit peu de corruption aussi.
D'accord. Bon, et puis alors, je te dis qu'il y avait plusieurs raisons qui me rendaient chafouin, il y en a une dernière. Alors, comme tu le sais, lecture et écriture vont de pair. C'est même ce que nous disait Julien Gracq dans ce beau livre, En lisant, en écrivant, que j'avais lu d'ailleurs sur papier. J'avais dû ouvrir les pages, enfin les découper avec un couteau, je crois.
Ce n'est
pas l'ustensile qui allait avec, mais enfin bref, je m'égare. Lecture et écriture vont de pair. Mais alors que notre podcast est axé sur la lecture, j'ai autant envie aujourd'hui de parler d'écriture que de lecture, si tu veux bien. J'aimerais commencer par demander à notre invité non seulement de se présenter, mais aussi de nous parler de son association au titre mystérieusement poétique, la Guilde des Plumes. Anne, peux-tu nous dire qui tu es ?
Bonjour à tous les deux, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je m'appelle Anne Pedron-Moinard. C'est toujours horrible, je trouve, de répondre à cette question « qui tu es ?» C'est quand même vertigineux, abyssal. Je suis une accoucheuse de pensée et une ingénieureuse des travaux publics du langage, globalement. Voilà, je peux dire ça. Je suis historienne au départ, donc nous sommes donc deux dans cette salle virtuelle. Et donc je suis passionnée par les questions de récit, de narration, de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui doit être étayé par des documents, par des mots, enfin voilà, qu'est-ce qui dans les mots que les gens utilisent pour raconter leur histoire correspond à des mots que les institutions utilisent pour raconter l'histoire du monde, enfin voilà. Et donc j'ai travaillé dans plein de trucs, enfin j'ai fait plein de choses, dont j'ai quand même enseigné pendant 10 ans. C'est comme ça que d'ailleurs j'ai rencontré Guilain. Toi aussi, Yann, mais de façon indirecte, puisque tu étais une star de Twitter au moment où je me suis lancée sur Twitter. Et donc j'étais très admirative de ce que vous faisiez. Voilà, moi j'étais une
C'est une
jeune
autre
prof,
époque.
une petite prof. C'est une autre époque, exactement. Voilà, donc j'ai enseigné pendant 10 ans et puis ensuite je suis devenue conseillère discours et prospective d'une élue. Et après, j'ai un peu allié les deux casquettes pour faire globalement de la stratégie de formation, de la stratégie d'affaires publiques pour des organismes qui font de la formation ou de l'éducation. Et donc, j'ai fondé, quand j'étais conseillère discours et prospective, une association qui s'appelle la Guilde des Plumes. Donc, nous ne portons pas de cape, ça n'est pas une guilde de joueurs Magic ou autres cartes du même genre. En fait, le terme de guilde est emprunté aux anglo-saxons parce que eux, ils utilisent beaucoup ce terme pour les assos professionnels. Et que, en fait, on l'a repris un peu au début de façon un peu temporaire en se disant qu'on trouverait un autre nom. Et puis, en fait, comme il s'était installé au bout de 3 mois, on s'est dit qu'on allait garder ça. Et donc, la Guilde des Plumes, c'est une association que j'ai cofondée avec d'autres plumes, donc c'est-à-dire des personnes qui écrivent pour d'autres personnes, des tribunes, des discours, des posts LinkedIn, des bouquins, voilà, qui font de la maïeutique, en fait, hein, globalement. Que j'ai fondé en 2018, ouais, parce que le métier de plume n'était pas du tout connu en France. Enfin, surtout, en fait, les plumes ne se connaissaient pas entre elles. Globalement, quand même, en France, en 2018, quand vous disiez que vous étiez plume, surtout si vous êtes une femme, bah, on vous prend pour une espèce de poétesse éthérée. Donc, les gens débarquaient, moi en tout cas, dans mon bureau, en me disant, est-ce que tu pourrais. Non, mais est-ce que tu pourrais me résumer ça en 140 caractères? Et j'étais là, genre, mais ça, c'est le travail le plus dur à faire, en fait. C'est beaucoup plus simple d'écrire un discours de 150 pages que de, enfin, ou même de 15 pages que de faire un tweet en 140 caractères, parce que il faut être très concis, mais vous le savez aussi bien que moi. Enfin, en 280, après, c'était pareil. Soit l'autre image, c'est, et ça, c'est plus souvent une image qu'on accole aux hommes, c'est une image ultra péjorative. Je vais utiliser le terme avec des guillemets, mais c'est l'image du nègre. Parce que c'est comme ça que on l'a désignée, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'étayer. Donc nous, on voulait sortir de cette double image et dire qu'en fait, écrire pour d'autres, c'est un ensemble de compétences qui relèvent d'une maïeutique de la pensée, qui relèvent de la veille, de la prospective, de la stratégie et de la communication, et que tout ça, ben, en fait, ça a une forme. Et surtout, on voulait faire en sorte que les plumes se rencontrent, parce que plume, c'est un métier très solitaire. Vous êtes tout seul avec dans votre bureau. Les gens ne savent pas trop ce que vous faites dans l'organisation. Donc généralement, ils disent toujours un peu, mais bon, bah, lui ou elle, elle écrit les discours. Et du coup, vous êtes très seul et vous vous demandez toujours si c'est un peu vous qui avez un problème à accéder à votre orateur ou votre oratrice. Or, non, c'est le lot de toutes les plumes. Les gens veulent les dirigeants. Des patrons du CAC, des politiques, des patrons d'asso, ils veulent, je dis patrons parce que c'est majoritairement des hommes hein, quand même, ils veulent quelqu'un pour écrire, mais en fait, ils veulent pas passer de temps à réfléchir à ce qu'ils veulent dire. Le problème, c'est qu'on peut pas écrire pour les gens sans savoir ce qu'ils ont envie de dire. Et en fait, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils ont envie de dire, voire, et ça c'est plus problématique, qu'ils n'ont rien à dire. Voilà. Donc, on a fait ça comme ça.
Ouais, c'est un problème que je rencontre souvent avec l'intelligence artificielle, parce que avec toutes ces promesses d'accélération, tout ça, de la pensée, souvent je ne sais pas ce que je vais dire en fait, donc je ne sais pas ce que je vais demander à l'intelligence artificielle, parce que finalement c'est en écrivant que je découvre exactement ce que je veux dire, parce que finalement le fond et la forme sont difficilement dissociables.
Eh bien, merci
C'est
beaucoup.
hyper intéressant. Non, pardon. Vas-y, vas-y,
Je
dis-moi.
disais merci beaucoup parce que je voulais juste ouvrir la porte pour qu'on vienne nous servir les premières madeleines hein, pour ce premier segment de l'émission. Mais je t'en prie, Anne, on va patienter pour les madeleines.
Non, non, mais c'était juste pour rebondir sur ce que disait Yann, sur le fait que c'est en écrivant qu'on sait ce qu'on veut dire. Enfin, c'est un exercice cathartique de maïeutique. Et en fait, je trouve, mais on y reviendra, que cette promesse de l'intelligence artificielle, elle tombe à plat à partir du moment où justement, en fait, les gens pensent que ça, elle va avoir la réponse à une question qu'ils ne se sont même pas posée, qu'ils ne savent pas comment poser. Et pour le coup, ça, un humain, il sait faire de la maïeutique avec du verbal, du non-verbal, voilà. Là où pour l'instant, une intelligence artificielle, elle ne sait pas le faire.
Et puis, elle ne sait pas lire combien nos estomacs sont impatients hein, pour cette première partie. Merci Anne pour cette magnifique introduction. Moi, j'adore le titre Guilde des Plumes parce que j'y vois effectivement plutôt la résonance médiévale que la Guilde de Magic. J'avoue que j'ai toujours eu du mal à comprendre les règles de ces jeux. Alors que pour les guildes du 15e, du 16e siècle, j'ai aucun problème à comprendre ce qu'elles font. Alors, j'ai promis des madeleines, nous y voilà, et Anne, on te propose de voyager dans le temps avec notre première question, et je vais laisser Yann justement se saisir de cette première question, tandis que moi je prépare la DeLorean pour repartir quelques années en arrière.
D'accord. Eh bien, écoute, je te pose la première question, Anne. Est-ce que enfant, tu étais une grande lectrice?
Oui, j'étais une très très grande lectrice. Je passais ma vie à la bibliothèque municipale. Je pense que la phrase que j'ai le plus entendue de ma mère enfant, c'était « Non, mais de toute façon, toi, le monde pourrait s'effondrer, que tu serais encore en train de lire. » Donc, ce qui veut bien dire, donc oui, j'étais plongée dans des bouquins et elle m'appelait pour aller déjeuner et je disais « Non, mais attends, il faut que je finisse mon chapitre. » Parce qu'on n'avait pas le droit d'emmener des livres à table. Règle que je n'ai pas imposée du tout à mes enfants qui ont le droit de venir avec leurs livres à table. Donc oui, j'étais une très grande lectrice et j'ai toujours lu très vite. Donc je pense que j'allais à la bibliothèque le mercredi après-midi, le samedi après-midi et assez vite, une fois que j'avais éclusé le rayon. En plus, il y avait de la littérature jeunesse, mais quand même, il n'y avait pas tous ces trucs qu'il y a aujourd'hui là de un
Oui,
peu adolescent, voilà toutes ces.
la richesse éditoriale actuelle est de ce point de vue extrêmement enthousiasmante.
Ouais, donc j'ai vite filé au rayon adulte.
En t'écoutant, je me rends compte qu'il y a une question qu'on n'a jamais pensé à poser. Et il faut dire qu'en trois épisodes, ah, c'est pas étonnant qu'il y ait des questions auxquelles on n'ait pas pensé, mais c'est la question de la transmission, en fait. Tu vois, comment est-ce que tu as réussi à transmettre le goût de la lecture aux enfants? C'est pas forcément une tâche évidente, mais en tout cas, tu les empêches pas d'apporter leurs livres à table.
Non, et j'ai transmis le goût de la lecture. J'ai deux fils. Toutes les études sur la lecture montrent que les garçons arrêtent de lire à l'adolescence, globalement, enfin à l'entrée au collège, quoi. Les miens ont arrêté de lire temporairement des romans, ça c'est sûr. L'aîné, il est entré en seconde là, et ça y est, il a repris les romans, etc. Donc là, ils ont une phase manga, mais oui. Ils ont toujours un livre à la main, ils ont des bibliothèques remplies, ils nous voient lire. Donc oui, je crois que je leur ai transmis le goût de la lecture.
Bravo. Et est-ce que tu te souviens de ton premier livre?
Alors, non, en vrai, je ne me souviens pas du premier objet livre que j'ai eu. Mes premières lectures, c'était des bibliothèques roses. Et en plus des vieux bibliothèques roses qui dataient de l'époque de mes parents. Donc vous savez, avec le papier un peu jauni là
Oui,
qui
tout à fait,
sent,
avec la couverture cartonnée.
Oui,
ouais,
c'est
avec
ça.
la couverture cartonnée. Donc j'ai dû lire des oui, parce que je sais qu'on en avait, mais je m'en souviens pas du tout.
Le
Et
club des cinq?
mes premiers souvenirs de lecture, c'est le Club des Cinq. En plus, ma mère s'appelle Claude, et elle a beaucoup souffert de s'appeler Claude dans les années 60, qui était un prénom beaucoup plus masculin. Donc, dans le Club des Cinq, il y avait une Claude féminine. Donc, voilà. Et moi, j'ai fait du scoutisme après, et dans le Club des Cinq, j'adorais cette bande d'enfants qui étaient hyper libres, qui menaient des enquêtes. Ils étaient toujours, je sais pas, j'ai des souvenirs de, ils sont sur la plage, entre cousins. Voilà, ça me, voilà, c'était un univers un peu de la famille Ricoré fantasmée, du truc où j'aurais eu plein de cousins, on aurait eu une maison en Bretagne et l'été on se serait tous retrouvés.
Avec un
Et
toutou
donc, ouais.
sympa.
Ouais, exactement. Donc, non, voilà. Et après, je vais l'avouer ici, mon livre doudou de l'adolescence, mon guilty pleasure, c'est La Bicyclette bleue. Donc,
D'accord.
voilà. Donc, j'ai lu tout Régine Desforges, enfin, juste toute La Bicyclette
On va
bleue.
arrêter l'émission maintenant, je pense, hein.
Mais Gisela est
Voilà.
régulièrement offensée. Hein. J'ai pris la défense de François la dernière fois sur apostrophe, mais c'est vrai que ça pouvait relever de la torture, je suis d'accord. Il y avait des
Non, non,
émissions
mais je
marrantes.
plaisantais, mais apostrophe, c'est très bien. Franchement, il n'y a aucun problème
Bah,
là-dessus. C'est même.
ça dépendait, franchement. Ça pouvait être
Oui,
affreusement plat aussi.
ça dépendait des invités. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que nous
Ouais, c'est
n'avons
ça.
choisi que des invités de qualité.
Ah. Ouais, voilà, comme ça, c'est jamais plat, en fait. Alors forcément, tes lectures, Anne, elles étaient sur papier à cette époque-là.
Oui,
Mais
oui, oui.
aujourd'hui, quelles sont tes pratiques de lecture? Alors, à la fois en termes de support, mais aussi de lieu, de temps, tout ça.
Alors moi, je lis toujours quasi, enfin en tout cas les romans et les essais sur papier. Je lis pas en numérique. Je lis la presse en numérique et des papiers un peu scientifiques. Enfin voilà, mais je lis sur papier. Je lis. J'ai un rituel. Enfin j'en ai deux, mais je lis une demi-heure le matin au réveil en buvant mon thé. Et personne n'a le droit de m'emmerder pendant ce temps. Voilà. Donc j'ai fait ça à partir du moment où les enfants étaient capables de gérer leur petit déjeuner tout seuls, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment. Donc, je lis souvent des essais le matin avec un crayon de bois à la main. C'est vraiment ma façon d'émerger. Et après, je lis parfois dans la journée au déjeuner, parce que je suis presque tout le temps en télétravail, donc voilà. Mais là, je suis retombée dans urgence, donc en fait, plutôt quand je mange, je me refais tout urgence. Et puis, je lis le soir, mais j'avoue, je ne sais pas, ça doit être la quarantaine, mais avant, je lisais une demi-heure le soir avant de m'endormir. Bon, maintenant, ça dure plutôt 5 minutes, quoi. Et généralement, je m'endors et je suis pas sûre des 3 pages que j'ai lues la veille.
Donc tu reviens sur les trois
Et
pages éventuellement.
ouais. Et là, typiquement, par exemple, enfin, il faut que le livre soit vraiment captivant. Et typiquement, là, j'ai voulu lire Cabane d'Abel Quentin. Donc, je ne sais pas si vous
Alors,
avez, si vous
c'est
voyez qui est
terrible parce
Abel
que
Quentin.
j'ai vu ton post à ce sujet, je crois que c'était sur Instagram, parce que je crois que c'est le dernier réseau
Oui.
que j'ai encore utilisé. Et je l'avais acheté quelques jours avant, et j'aurais dû attendre ou j'aurais dû te consulter. Parce que quand j'ai vu ton avis, je me suis dit, oh, mais ça... En fait, résultat, le livre était en haut de la pile, parce que j'achetais toujours deux, trois livres en lot pour m'enfiler ça dans les deux, trois semaines. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, il va passer de la première place à la toute dernière, quoi.
Bah, en fait, je préparais des universités d'automne sur le changement climatique et la communication. Et Abel Quentin était donc il a sorti son bouquin à la rentrée. C'est sur le rapport Meadows. C'est un univers fictionnel autour du rapport Meadows. Alors, Le Masque et la Plume a adoré. Hein, donc peut-être que tu vas adorer. Moi, j'ai détesté. Alors que j'avais adoré le précédent Abel Quentin, Le Voyant des Tempes, qui était un peu sur une critique du wokisme que j'avais trouvé intéressante, même si dans le fond, j'étais pas forcément d'accord avec ce qu'il portait. Et là, je n'ai pas compris. On a l'impression que le livre n'a pas eu d'éditorialisation. Donc en fait, qu'on l'a laissé vraiment dans une espèce de logorrée. Voilà. Et donc typiquement, quand je dis ce genre de livre dans lequel j'ai l'impression qu'il y a 300 pages en trop et que là, je ne sais pas pourquoi je me suis forcée à aller jusqu'au bout alors que d'habitude, j'ai pas de mal à arrêter un livre. Bon, bah, il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soirées pour
Pour le
finir
finir, celui-là.
ce bouquin, quoi. Voilà.
Eh bien, je vous propose alors un petit rafraîchissement, parce que c'est quand même le moment. On parle de cabane, on s'imagine près d'un lac. Bon, on sait très bien que le feu couve un petit peu partout dans le monde, mais c'est le moment. d'ouvrir notre bouteille, notre première bouteille pour notre première gorgée de bière numérique. Alors Anne, tu nous disais justement que tu lisais essentiellement sur papier, que la presse, c'est ce que tu disais en numérique. Quel est ton premier contact justement avec cette lecture numérique? Et justement, peut-être, est-ce que cette lecture numérique ne t'a pas paru déjà trop différente de ta lecture papier que tu affectionnais depuis ton plus jeune âge?
Si, alors, j'ai réfléchi à cette question quand même et je me suis dit que, en fait, en tout cas, la lecture médiée par un écran, je pense que mon premier contact avec la lecture médiée par un écran, plus que l'ordinateur, ça a été quand j'ai lu des microfilms, des journaux sur microfilms aux archives. Et ça n'a pas du tout la même saveur que des vieux journaux qu'on tourne. Moi, je suis très, enfin, je suis, comment on dit là, hyper, enfin, je suis très sensible au toucher, mais vraiment très. Et donc, je suis très sensible à la sensorialité des objets, aux odeurs aussi. Et je trouve que, enfin, vraiment, le vieux papier, le toucher granuleux du papier, c'est irremplaçable pour moi, vraiment. Ça fait partie de l'acte de lecture. Et donc, j'ai beaucoup plus de mal à concentrer mon attention dans une lecture médiée sur les écrans. Et sur les microfilms, c'était déjà le cas. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais là et je ne savais pas comment zoomer, dézoomer. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui était. Il fallait que je prenne des notes, je ne pouvais pas annoter le truc. Enfin,
Et en
il y avait
plus,
un
tu
truc
étais
qui.
sur un d'un point de vue corporel, tu étais assise. Parce que vraiment,
Oui.
j'ai pratiqué aussi cet exercice que j'avoue ne pas avoir beaucoup apprécié non plus. Et c'est vrai qu'en plus, le fait de devoir sans cesse regarder cette sorte d'écran combinaison, hein, parce qu'au final, il fallait quand même se mettre la tête là dans le bazar, et puis prendre des notes à côté, faisait qu'à chaque fois, il y avait une rupture cognitive entre ce que je cherche et ce que je note. Parce qu'on n'était pas sur le même support, on ne pouvait pas annoter le microfilm.
Ouais, tout à fait. Je suis complètement d'accord. Et après, je pense que donc moi, mon père était un vrai geek. On a eu des ordis hyper tôt. Voilà, j'ai tanné ma mère pour avoir Internet. Je lui dis toujours d'ailleurs aujourd'hui, parce que je me souviens très bien. Mon frère et ma sœur s'en souviennent aussi, que je lui avais dit à la fin des années 90, mais c'est génial, tu peux parler avec des gens en Australie. Ma mère m'avait répondu. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute de parler avec des gens en Australie? Je connais personne en Australie. Et du coup, et
Justement.
maintenant, bon bah, maintenant elle est plus sur les réseaux sociaux que nous, je pense. Donc souvent on se moque d'elle quand même sur ce truc-là. Donc on a eu des écrans, on a eu des connexions Internet assez rapides, mais c'était quand même, j'avais pas une lecture numérique, voilà. Donc j'ai commencé, je pense, à lire un peu Le Monde, tout ça. Mais je pense que j'ai beaucoup lu sur écran à partir du moment où j'ai eu un iPad et c'était tard, c'était en 2011, et un smartphone. Et donc là, globalement, j'ai beaucoup lu la presse, quoi. Mais voilà. Donc ma lecture sur écran a démarré, je dirais, quand j'étais à l'université, à Sciences Po. Et après, quand j'ai préparé la grecque, j'ai dû lire des articles sur Cairn, tout ça, quoi. Voilà.
En fait, ça a commencé avec une expérience effectivement qui n'était pas la meilleure, parce que ces microfilms, enfin moi, je n'ai jamais vraiment fait ce genre de choses, mais je crois que ce n'est pas la meilleure expérience. En revanche, l'iPad, tu es venu assez tôt, en fait, mais finalement, c'est une lecture numérique qui est dédiée à la lecture des journaux, par exemple, hein, de la presse essentiellement.
Ouais, en fait, j'avais vu sur l'iPad. Enfin, quand j'ai eu un iPad, je me suis dit, ah tiens, je vais passer au livre numérique avec l'appli Books là. Et puis en fait, je sais pas, j'ai jamais accroché au format. Alors moi, j'ai jamais eu de liseuse parce que je sais pas, parce que j'avais un iPad. Du coup, je me disais, ça sert à rien d'avoir un objet numérique en plus, etc. Alors, mais l'iPad, en fait, c'est pas un écran, enfin, il est rétro,
Oui, c'est
histoire
une dalle
d'éclairage qui est pas le même, là.
rétroéclairée.
Ouais. Et donc je trouve que le seul avantage que j'y ai vu, alors quand même, si, c'est quand j'étais enceinte et quand mes enfants étaient bébés, parce que tu peux lire la nuit sans allumer de lumière.
C'est vrai.
Et donc, j'ai pris l'habitude, quand j'ai fait des insomnies de fin de grossesse ou quand il faut faire un biberon à 4 heures du mat et que vous attendez qu'il se rendorme, là, de lire des trucs sur des articles, etc., sur mon écran. Et ça, j'ai trouvé ça hyper pratique parce que bah, vous réveillez personne. C'est assez sympa. Mais à part ça, j'ai jamais trop. Ouais. J'ai acheté quelques essais. Genre, j'ai lu Bruno Latour sur mon iPad. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi je l'avais acheté sur mon iPad et pas en papier. Je pense que c'était parce que c'était au début du confinement et que du coup, j'avais pas
Pas de librairie
d'accès à une
ouverte.
librairie. Voilà.
En tout cas, c'est un argument de vente qu'on n'a pas encore entendu chez Apple. Donc, Tim Cook, si tu nous entends, tu peux sortir une pub sur l'iPad qui est utile lorsqu'il faut préparer le biberon à 4 h du matin.
Cela dit, si Tim Cook nous écoute, sait-on jamais, s'il pouvait revoir de fond en comble cette application Books qui est de pire en pire chaque année. Enfin, non, c'est pas vrai. Je crois que cette année, elle n'a pas du tout évolué, donc il n'y a pas eu de changement.
En fait, pendant
Mais
quelques années, il y
ce qui...
avait une personne qui était en charge du développement et cette personne a
Oui,
été
c'est ça, en
licenciée.
fait.
Donc, ça ne bouge plus.
Ouais. Donc effectivement l'application là aussi c'est pas la meilleure expérience qu'on peut avoir. Mais je sais pas, Ghislain, ce que tu en penses. On peut peut-être passer quelques
Oui.
questions parce que en
En fait,
fait tu y as répondu. Mais ouais,
ce qui
je me
semblait
disais
peut-être
peut-être que ce que tu...
intéressant,
Ouais,
peut-être là,
vas-y,
Yann.
vas-y.
Bah, je t'en prie, c'est que vu que Anne nous a donné un cas pratique très intéressant, et puis que Anne est actuellement avec des écouteurs, est-ce que justement le livre audio n'aurait pas été non plus une alternative, ou alors aujourd'hui un moyen très pratique de s'endormir rapidement?
Ah oui, alors moi j'ai une règle, c'est pas de device, enfin d'objet électronique dans la chambre à coucher, donc ni mon téléphone, ni rien. Voilà. Donc pour s'endormir rapidement, non. Les livres audio, en fait, je fais pas mal de voitures en ce moment et je me dis, ah, il faudrait peut-être que j'essaye quand même. Que je prenne un abonnement d'essai chez Audible ou voilà pour voir comment ça marche. Parce que, par exemple, j'ai adoré quand France Culture, certains étés, lisait Harry Potter, je crois. Ils ont fait ça à un moment. Ils ont lu Harry Potter. Ils ont mis en scène des Tintins, mais vraiment, il y avait du bruitage, etc. Mais on pouvait écouter Tintin. Et ça, je trouve ça assez passionnant. Après, moi, j'écoute énormément de podcasts qui, en fait, finalement, sont un peu du livre audio aussi. Enfin, tout dépend le format du podcast, mais quand il y a typiquement les podcasts de Philippe Collin sur, je sais pas, sur des grands personnages historiques, là, les séries en 5, 6 ou 8 épisodes, je les ai écoutés. C'est du. Il n'y a que lui qui parle avec enfin, des interventions de spécialistes, mais globalement, ce serait presque comme un livre
Oui,
audio.
parce que c'est très scénarisé.
Oui, c'est très
Celui
scénarisé.
qui... Pardon, excuse-moi, mais Colin, c'est lui qui avait fait, par exemple, la série sur Léon Blum?
Ouais, c'est lui.
C'est ça, hein? Ah, c'était
Ouais.
génial.
Mais oui, c'est génial. Et pour moi, c'est un peu comme du livre audio. Après, moi, je sais que j'ai une écoute qui est très flottante, globalement, des podcasts, etc. Et c'est-à-dire que. J'écoute beaucoup de podcasts quand je marche, quand je fais de la cuisine. Et en fait, moi, je m'en fiche si je rate 5 minutes et que, parce que je suis en train de penser à autre chose. En fait, j'écoute des podcasts et ça fait tourner mon petit vélo en haut, là. Et puis, ça me donne des idées. Et puis, voilà. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc un peu, un rapport un peu sacré au livre où je me dis, mais je ne peux pas faire ça avec des livres, quoi. Parce que j'ai l'impression que l'objet, il a été pensé pour une lecture. Continue. Et pourtant, moi, je lis en diagonale souvent. Donc, en fait, en vrai, je fais un peu pareil sur certains bouquins. Je saute à moitié des phrases en me disant, OK, bon, ça, j'ai compris, c'est pas très grave pour l'intrigue, etc. Donc, je sais pas trop pourquoi j'ai pas entièrement sauté le pas. Je sais que j'avais des collègues quand j'enseignais, quand j'étais à Rennes et que j'enseignais chez des élèves officiers à Saint-Cyr-Couette-Quidan, une grande époque, et que donc j'avais 80 km de voiture aller-retour tous les jours. Et mes collègues faisaient pareil. Et j'avais des collègues qui, donc on était en 2008-2009, qui écoutaient des livres audio sur le trajet, des essais, etc., en anglais. Et j'étais admirative de ça. Et en même temps, je ne l'ai jamais fait. Et je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, si ce n'est, mais je vais peut-être déflorer une de vos questions suivantes, mais ce n'est pas grave.
Déflorons,
Je ne l'ai pas fait parce que aussi, le livre, pour moi, c'est... Enfin, lire, c'est une expérience corporelle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une interaction entre la main, les yeux, le cerveau, le corps. Et que j'ai l'impression que, surtout si on coupe le lien entre ma main et mes yeux, ma tête, bah en fait, mon focus diminue. Et que vraiment, le fait de tenir le livre en main change mon rapport à à ce qui est écrit, quoi, à ce que je vais lire. Voilà, ce qui ne m'a pas empêché, enfin, mais je pense que ça vous est arrivé à vous aussi, quand j'ai passé trop de temps sur écran, de vouloir scroller un livre, quoi. Ça vous est
Je
déjà
crois que Yann
arrivé,
avait parlé de ce genre
rassurez-moi.
d'expérience. Alors oui, mais alors juste avant, je trouve que c'est super intéressant ce que tu racontes sur le rapport de la lecture à la main, parce que moi aussi, je n'arrête pas de m'interroger sur ce non-succès du livre audio chez moi, en fait. Et j'ai l'impression que chez beaucoup de gens, ça prend pas, en fait. Alors il y a des gens qui adorent ça, mais j'en ai pas rencontré tant que ça. Et j'aimerais bien, adorer le livre audio, mais il se trouve que j'en écoute pas. Bon, et je pense que peut-être que je suis un grand rêveur aussi, donc mon esprit s'envole là, et que si mon rapport à la lecture était uniquement médié par la voix enregistrée, par l'audio, je pense que je raterais une bonne partie. D'ailleurs, je rate une bonne partie des podcasts que j'écoute, ce qui fait que des fois, en fait, il faut que je les écoute plusieurs fois parce que j'ai manqué une bonne partie.
T'imagines 1h40 pour notre dernier podcast,
Une heure par. Ouais. Et là, forcément, tu décroches. Mais tu peux mettre sur pause, hein, en fait. Et de fait, il faut. Non, alors après, pour répondre à ta question, je ne sais plus ce qu'on a dit sur le scroll. Hein. On avait parlé du scroll. Hein, je ne sais plus si c'est dans notre podcast qu'on a parlé du scroll
crois que
infini.
c'était le
Peut-être qu'on.
premier. Je crois que c'est le premier où on a évoqué.
C'est sur le premier.
Il y avait déjà cette. On sent bien quand même que c'est un filigrane en fait dans ces trois premières émissions. Sur le rapport à l'objet, sur le fait qu'effectivement, depuis que nous sommes tout petits, nous avons été éduqués et tout notre système éducatif tourne autour de cela. Et c'est pas anodin, en fait, parce que nous sommes des animaux culturels, nous sommes des animaux qui fabriquons des objets. Et cette sacralité qu'on projette sur le livre tient peut-être parce que dans notre classement des objets humains, celui-ci est peut-être dans le top 5 ou dans le top 3, si ce n'est pas pour certains en premier, parce qu'il est l'incarnation de tout ce qui fait homme. Et donc, forcément, le fait de transférer cet objet physique en quelque chose de totalement invisibilisé, c'est-à-dire le livre audio, là, c'est un sacrilège ultime. Déjà que pour certains, transférer le livre papier sur un support numérique tel qu'une tablette ou une liseuse, c'est déjà finalement une forme de prostitution du livre. Mais alors, si en plus on lui enlève son corps juste pour le transférer dans des écouteurs, et donc plus personne ne sait finalement que nous lisons, et nous-mêmes, nous oublions que nous lisons, puisqu'on peut même effectivement oublier que nous lisons pendant 15 minutes et se rendre compte que, oups, ça continue à se diffuser. Il y a peut-être là des éléments de réponse sur le fait que ça prenne
Ouais.
pas. Après, il faut avoir les chiffres de vente, peut-être qu'on serait surpris.
Mais sur la lecture à voix haute, ça m'intrigue quand même ce sujet. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, quand tu lis aux élèves un extrait un peu long, juste pour leur faire découvrir une œuvre, hein, pas pour les interroger et les torturer sur la raison de cette virgule dans la phrase, mais pour découvrir un texte, ils écoutent avec plaisir quand même, même ceux qui lisent pas. Hein, j'avais eu cette expérience, ça m'avait vraiment étonné. Je pense que ça devait être la première fois que je me lançais dans une lecture aussi longue. Je crois que c'était Les Misérables en classe et j'avais été surpris de la qualité de l'écoute. Donc il y a quand même ce plaisir de la lecture audio, même si la personne est là pour lire en face de vous. Mais peut-être que je constitue un objet dans ce cas-là
Non, mais
auquel se référer.
je pense que c'est très juste parce que moi, je me dis toujours, j'adore, par exemple, aller à des. Enfin, j'y vais pas, mais j'adore écouter, ou j'en ai fait quelques-unes, des soirées contes. Enfin, j'adore écouter des conteurs. Je trouve que c'est incroyable, mais pense que la différence avec le livre audio, c'est quand même la corporéité, c'est-à-dire la personne, elle est là,
Oui, ça
elle
nous ramène
incarne
à la
quelque
même
chose.
question.
Et quand tu lis à voix haute des choses à tes élèves, mais je pense que c'est un peu pareil avec les enfants. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu triste. Vous savez, maintenant, il y a des boîtes aussi à histoire là
Ah,
pour
bah
les enfants.
complètement. Là, on est dans la
Et en fait,
désincarnation totale, en fait.
et je trouve que bah, les boîtes à histoire,
C'est quoi
bon,
ça, ces boîtes à histoire?
bah, en fait,
Pardon.
c'est des boîtes. Tu as des boîtes, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais la plus connue, c'est une petite boîte bleue avec une molette jaune. Et en fait, les enfants vont tourner la molette. Ça va soit leur raconter une
Je
histoire,
connaissais la
soit en fait.
boîte à vœux. Ah bah,
Non, bah, tu as des boîtes
la
à
boîte à
histoire.
histoire. Mais grosso modo, tu as trop la flemme de lire des histoires à tes enfants, et donc les enfants vont finalement
Moi,
chercher une
je
petite boîte. Et aujourd'hui, tu peux le faire aussi avec tes assistants virtuels, hein, où tu demandes à Alexa. Alors j'espère que personne n'a d'Alexa chez soi en ce moment-là, parce que sinon je viens d'activer tous les assistants dans
désolé
toutes les
avec ça.
maisons. Mais raconte-moi l'histoire du petit chaperon rouge, et boum, voilà, l'histoire est interprétée.
Mais je pense que c'est pas du tout pareil pour les enfants que moi je l'ai fait encore récemment justement quand ils avaient du mal mes fils quand j'en avais marre qu'ils lisent One Piece et Naruto quoi en gros et que je voulais leur faire découvrir le dernier enfin je sais pas si vous l'avez lu mais c'est incroyable ce livre Van Gogh de Timothée de Fombelle donc Timothée de Fombelle qui est un auteur jeunesse incroyable et qui a fait un énorme pavé qui s'appelle Van Gogh c'est l'histoire d'un orphelin. Donc, quand vous êtes adulte, vous comprenez très vite que bon, c'est un peu comme, je sais plus, Princesse Anastasia, quoi. Vraisemblablement, c'est un orphelin de la famille royale russe, voilà, qui a été récupéré. Et donc, ça se passe dans l'Europe des années 30. C'est incroyable, mais mes fils avaient du mal à rentrer dans l'histoire. Et donc, j'avais déjà fait ça pour d'autres livres. Et en fait, j'ai lu le chapitre 1 à voix haute avec eux. Et en fait, ils m'ont dit, ah, mais tu veux pas lire la suite? Et c'était aussi un peu genre, si c'est médié par toi, c'est bien. Mais si je dois m'y mettre tout seul, je sais pas, il y a un coup d'entrée dans le livre qui fait que je vais pas y arriver, quoi. Et je pense que je leur aurais mis en livre audio, je suis pas sûre qu'ils auraient accroché non plus, quoi.
On retombe sur cette
Ouais,
question de l'incarnation, parce que là tu
Ouais.
incarnes le livre et en plus le livre tu l'as dans la main. C'est-à-dire qu'en fait on ne perd pas l'objet parce qu'on voit d'où vient cette histoire et cette histoire est ravivée par le fait qu'on l'interprète. Donc je dirais même qu'on a deux corps finalement à ce moment-là.
C'est intéressant hein, ce sujet de l'incarnation, hein, spécialement dans une culture judéo-chrétienne où le Fils de Dieu s'est incarné dans l'homme en fait. Hein, mais je me disais aussi que finalement, avec toute cette histoire d'intelligence artificielle par exemple, parce que là je suis en train de lire l'affreux livre de Salman Khan je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Enfin bon, il nous explique que l'IA va révolutionner l'éducation. Bon, il nous fait le coup à chaque technologie. Mais en fait, l'enseignement, c'est pareil, tu vois, s'il n'est pas incarné, je pense que, il échouera également, tu vois. Donc, pour tous ceux qui sont inquiets pour leur métier, je crois que de ce point de vue, là, ils devraient être vraiment tout à fait rassurés.
Bah, je pense aussi, c'est-à-dire que enfin, c'est marrant ce que tu disais sur la culture judéo-chrétienne, parce que quand même, dans le dernier des quatre évangiles, je ne sais jamais lequel
Saint
c'est,
Jean.
évangile selon Saint Jean, voilà, c'est ça,
L'évangile,
le
c'est celui
début
de
de.
l'Apocalypse.
C'est, voilà, c'est le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est quand même la première phrase de cet évangile. Donc, je trouve que cette idée, le Verbe s'est fait chair, est quand même, ouais, au fondement de nos identités narratives, en fait. Et du coup, le livre, il accompagne aussi ces identités narratives-là. Et après, moi, ça m'interroge beaucoup, cette histoire d'intelligence artificielle là-dessus. Enfin, bon, je pense que, justement, il faudrait arrêter de dire intelligence, parce que c'est pas une
C'est sûr.
intelligence dans le sens où c'est un assistant avec un peu d'intelligence logico-mathématique, en fait. Ça n'est que de l'intelligence logico-mathématique, c'est pas de l'intelligence émotionnelle, il n'y a pas d'intelligence humaine des situations. Faut quand même que tu lui expliques toute la situation, enfin, c'est le principe du prompt, quoi. Mais par contre, ce que je vois, et puis j'entendais une étude qui disait que plein d'ados s'en servent comme d'un assistant de développement personnel, en fait. Ils posent des questions, genre, enfin, vraiment, genre, j'ai un date, comment je m'habille, quoi. Voilà, il y a des trends sur TikTok de genre, ChatGPT te dit qui tu es à l'aune de tes prompts précédents. Et tu as envie de dire, mais c'est débile, parce que c'est un peu comme les trucs d'astrologie où tu aurais envie de lire que ce que tu as envie de lire. Enfin, voilà. Mais par contre, moi, je me rends compte que je suis énormément en télétravail et donc je n'ai pas de collègues pour ping-ponger. Que, bah, en fait, plutôt de l'IA que rien, quoi. Plutôt un ersatz de conversation que pas de conversation du tout. Et donc, c'est là où je me dis, bah, le risque, il existe. C'est-à-dire, si on est dans une société qui atomise des relations interpersonnelles et on est des êtres de relation, donc en fait, on a envie d'avoir des relations, bah, tout dispositif qui va te proposer un semblant de relation sera mieux que rien, en fait. Donc, moi, je sais pas, je ping-pong mes documents avec l'IA, je lui dis, bah, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Là où avant, j'aurais été voir une collègue et puis, ou un collègue, il m'aurait dit, ouais, là, je rajouterais tel truc, ou etc., quoi. Et là, bah, j'ai pas de collègue à disposition et je vais pas leur faire un Teams pour 3 minutes. Et donc, ça change un peu le.
Alors, en général, on fait ça autour d'un café. Eh bien, je vous propose de le servir, notre café. Anne, est-ce que tu le prendras plutôt en expresso? Est-ce que tu prendras plutôt un long, un latté peut-être?
Ah non, espresso pour moi, voire ristretto.
D'accord, très très court. Et toi, Yann, qu'est-ce que je te sers?
Oh bah moi, j'aime un peu tous les cafés, hein, même si la dernière fois, j'ai avoué mon goût pour les espèces d'infâmes soupes que tu peux trouver. Alors, peut-être pas dans les... Mince, comment ça s'appelle cet affreux café américain, là
Starbucks.
Starbucks, c'est vraiment infâme. Mais c'est vrai que j'aime bien la quantité. En fait, il me faut un maximum de
Donc toi, c'est le
caféine.
mug,
Bon,
ok.
c'est le mug de ristretto, en fait. En fait, c'est ça mon idée.
D'accord. Donc là, vous m'excusez, mais je vais partir un petit moment parce que le ristretto, il faut que j'en fasse beaucoup pour remplir le mug. Ça va être un petit peu long. Bien, pour accompagner ce café, eh bien, Anne, tu nous as donné plusieurs titres de livres. Comment as-tu fait pour les choisir et comment fais-tu aujourd'hui pour choisir le livre que tu vas lire dans les prochains jours?
Oh là là, ça c'est une question piège. Je sais pas ce qu'ont répondu les autres, mais
Est-ce que tu
alors
retournes
moi
en
je.
librairie puisque maintenant elles ont réouvert,
Oui,
peut-être
non mais
Covid?
voilà. Je crois que mon principe de base c'est quand même la sérendipité. Donc en gros, souvent je vais en librairie ou en bibliothèque. Enfin, à Nantes, je ne vais pas en bibliothèque puisque, excusez-moi, c'est ma minute, mais vraiment l'état de la lecture publique à Nantes est déplorable. Et je ne cesse de m'en plaindre. Donc voilà, nous n'avons pas de bibliothèque digne de ce nom à Nantes, alors que nous sommes la sixième métropole de France, ce qui a le don de m'énerver au plus haut point. Donc quand je vais en librairie ou dans la petite bibliothèque de quartier associative au bout de la rue, j'y vais souvent avec l'idée de chercher un titre en particulier. Et puis en fait, j'adore flâner dans les rayonnages et choisir un truc, globalement, hein, moi je suis très bon public, je pense, pour le marketing éditorial, parce que je choisis sur la quatrième de couve, la couverture, vraiment. Par exemple, Cabane d'Abel Quentin m'a aussi beaucoup fait de l'œil, parce que en couverture, c'est un tableau de Edouard Hopper, et j'adore Edouard Hopper. Et donc, je sais pas, la promesse du bouquin était cool, quoi.
Malheureusement, Covid interrompu.
Complètement. Donc voilà, donc souvent je vais en librairie avec une idée et en fait je ressors avec 4 livres que j'avais pas forcément choisis. Ensuite, beaucoup je choisis mes livres en fonction des recos des copines. Ensuite, mon compagnon écoute religieusement Le Masque et la Plume tous les dimanches, donc parfois me dit. Ah ben ça, tu vas adorer. Enfin, il va pas, il me dit pas tu vas adorer, mais il me dit, ah, ils ont parlé de ce livre, j'ai pensé à toi, voilà. Alors, il y a beaucoup de livres aussi que je ne choisis pas et que mon compagnon choisit pour moi, parce que il s'est longtemps demandé s'il n'avait pas envie de devenir libraire, jusqu'à voir que bon, l'état économique des librairies fait que c'est pas hyper sécure comme job. Donc, et puis que en fait, il n'a pas forcément envie de gagner un SMIC pour travailler 50 heures par semaine, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais du coup, il a développé une espèce d'activité connexe de libraire d'occasion. Donc, il passe son temps à acheter et vendre des livres sur Gibert, sur Le Bon Coin. Et tout. Il y a genre 72 annonces sur Le Bon Coin de livres que des gens viennent acheter. Donc, Donc souvent, il fait des commandes Gibert et des trucs arrivent et il me dit, ah, mais j'ai pensé que ça pourrait te plaire. Donc je me laisse porter et je suis assez peu les recommandations culturelles, à part le Goncourt des lycéens,
Ouais.
que je trouve génial chaque année, quasiment. Donc là, j'ai hâte, là, je n'avais pas du tout entendu parler de celui qui vient d'avoir le Goncourt, Madeleine, je sais plus quoi. D'ailleurs, je ne connais pas son autrice. Donc j'ai découvert qu'elle publiait un livre par an et je me dis, mais comment elle fait? Parce que moi qui écris, je sais pas comment on fait pour publier
Peut-être
un
qu'elle a
livre
une équipe
par
de
an.
plumes.
Peut-être, peut-être. Mais sinon, vraiment, c'est magistral. Voilà, donc je choisis mes livres un peu comme ça, un peu au petit bonheur la chance. Après, j'ai une dizaine d'autrices. Globalement, un peu phare, dont quand elles sortent des trucs, j'achète. Et puis parfois aussi, j'aime bien, je trouve qu'il a fait des trucs bien, Augustin Trapenard, la grande librairie. Et donc, j'aime bien quand à la fin, il y a un auteur ou une autrice qui lit un texte, et souvent ça me fait découvrir, enfin, qu'il a lui-même écrit, souvent ça me fait découvrir des auteurs et des autrices. Et puis après, un peu comme toi, Guilain, en tout cas dans les essais. Par exemple, j'avais lu Rupture de Claire Marin et elle a des obsessions dans Rupture. Elle cite toujours un peu les mêmes auteurs et autrices. Typiquement, elle citait Nina Bouraoui. Je ne connaissais pas du tout Nina Bouraoui. Bon, bah, j'ai acheté Nina Bouraoui et j'ai trouvé ça super. Et donc voilà, donc un peu par un phénomène
On remonte à la source.
d'intertextualité, voilà, je remonte à la source.
Et comment
Tiens, je
justement tu
partage avec.
partages? Oh pardon, Yann, vas-y, je t'en prie.
Vas-y, vas-y. Il y a un petit décalage, donc c'est pas évident.
Je voulais
Il
juste.
faudrait qu'on se fasse des signes, en fait.
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne. Enfin, parce que vous ne pouvez pas voir ce qui se passe présentement, mais tout à l'heure, Yann a eu un emoji vers le bas, une réaction. Donc, on
On
pourrait
sait
faire
pas
des
pourquoi,
commandes. Ouais,
d'ailleurs.
il faudrait peut-être qu'on fasse des gestes comme ça. Quoi
Ouais, mais
qu'il en
là,
soit.
je faisais aucun geste, en fait.
En plus, oui. C'était en fait l'intelligence artificielle qui nous lisait littéralement ce qui se passait dans ton cerveau à ce
Les pensées.
moment-là. C'est merveilleux. Anne, les livres que tu as sélectionnés ou que ton mari a sélectionnés, est-ce que tu les partages ensuite? Est-ce que tu utilises à ce moment-là ton téléphone? Est-ce que tu dégaines ton téléphone de ta poche pour partager sur des réseaux sociaux, sur des plateformes comme Goodreads ou comme Bookly, tes goûts de lecture?
Alors, j'utilise beaucoup Instagram comme un outil de partage de mes lectures. J'ai des stories épinglées sur mes lectures de l'année. En fait, je partage. Je fais jamais une recension pure et simple. Enfin, j'utilise pas de site de recension. Julien, mon compagnon, il utilise Babelio pour savoir ce qu'on a en stock dans la bibliothèque, parce que donc, bon, bah, vous ne verrez pas, mais Guilain et Yann voient. Mais donc, on a une très grande bibliothèque. Globalement, je crois qu'on a 5 000 livres à la maison. De mémoire, la dernière fois qu'on a déménagé, le déménageur, il était un peu en PLS.
Ouais, j'ai une petite poussée de suée là.
Et il a dit, et donc, je ne sais plus, il nous demande d'évaluer combien on en a vous savez, de valeur mobilière. Et donc, je lui dis, bon, pas grand-chose, quoi, on n'a rien qui est de valeur et tout. Et puis, il regarde notre collection de BD et il dit, je serais vous quand même, je mettrais un peu plus, parce que si le camion flambe, il va falloir tout racheter. Donc voilà, donc on a un Babelio commun pour, voilà, pour faire juste du tri et se dire comment on organise notre pensée, enfin notre bibliothèque, à qui on a partagé des choses, etc.
On sent que ton époux
Et
voulait
puis,
devenir libraire, hein, très
ouais,
clairement.
c'est clair, c'est clair.
Oh, tu disais, Anne, que vous aviez un babelio commun, c'est ça?
Oui, on a un Babelio. Enfin, en gros, il a un compte. Enfin, on a un compte Babelio dans lequel enfin, vraiment, c'est un truc. Il fait ses trucs de libraire,
On
quoi. Il
scanne
scanne tous
les
les
livres,
livres.
c'est ta
Il
bibliothèque.
scanne tous les
D'accord?
livres de la bibliothèque quand on
Mais
en
que
prête à
pour vous
des
deux.
gens. Et... Ouais.
D'accord. Et comme ça vous permet de recenser tous les livres, mais aussi de savoir ceux qui sont sortis, parce que vous les avez prêtés, c'est ça?
Exactement, parce qu'on a eu tout un moment quand même. Je sais pas, il a eu sa phase. Je vais être data scientist et il voulait lancer une appli. Enfin, il voulait concevoir une appli avec un copain sur les prêts de livres. Et puis en fait, ils ont benchmarké et en fait, Babelio fait ça. Donc il s'est dit, bon, voilà, je vais faire un Babelio. Donc voilà, mais je ne fais pas de recension de mes lectures sur Babelio, les deux endroits où je partage mes lectures, ou sur Goodreads, ou voilà, mais ni sur, je ne mets jamais de commentaires sur les livres sur Amazon, c'était une règle de base, parce que je refuse que Amazon vende des livres. Bon, ça ne sert à rien, c'est couper la mère à la petite cuillère, mais c'est mon petit combat personnel. Mais non, je partage mes lectures sur Instagram. Souvent, je partage des extraits de livres, des pages, en fait, et puis les gens me demandent, ah, mais c'est quoi ce livre? Est-ce que, enfin voilà, je mets juste la couverture, je dis ce que j'en ai pensé. Mais comme ça en instantané, et après je partage mes lectures de façon plus systémique, un peu dans la façon dont elles se répondent, dans ma newsletter qui s'appelle Sérendipité, qui est mensuelle. Et là souvent je partage ouais, mes lectures du mois précédent, en disant un peu enfin comment elles ont construit ma pensée et en quoi elles ont nourri ma pensée du mois à venir. Et puis depuis 2 ans, je partage mes lectures d'une façon un peu ludique, avec un calendrier de l'Avent littéraire. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans sur Instagram, en virtuel. Donc du 1er au 24 décembre, je publiais une citation tirée de mes lectures. Et puis j'en ai eu marre d'être invisibilisée par l'algorithme et de dépendre de Meta pour voilà. Parce que c'est quand même hyper frustrant de faire un truc joli sur Canva, etc., et de vous dire en fait aujourd'hui personne ne l'a vu et on ne sait pas pourquoi. Et donc l'an dernier, copiant en cela une nana que je suis, qu'il faisait elle en papier, je me suis dit mais oui, pourquoi je le ferais pas en papier? Donc l'an dernier et cette année, j'ai fait des calendriers de l'Avent littéraire que j'ai vendus d'ailleurs. Et donc les gens reçoivent 24 petites enveloppes avec 24 extraits de lecture, voilà. Et l'an dernier, une collègue à qui j'avais offert ça, parce que je les vends mais j'en offre aussi à des gens, m'a dit, ah mais c'est super, ça a rempli ma liste de lecture pour la bibliothèque pour toute l'année quoi, parce qu'en fait on n'avait pas du tout le même type de lecture. Et du coup, je pense que elle lisait plutôt de la chick-lit, quoi. Vous savez, la littérature pour meufs, quoi. Enfin, bon, j'ai rien contre Virginie Grimaldi et Valérie Perrin, mais au bout d'un moment, c'est un peu toujours la même histoire, quoi. Ça fait du bien, hein, parfois. Hein. Franchement, il y a des moments où c'est très bien de lire ça, mais. Et donc, je pense que voilà, elle, ça lui a fait découvrir d'autres autrices et elle était super contente.
Eh bien, je crois que ce que tu viens de nous dire nous amène tranquillement vers notre dessert, puisque pour le dessert, la première question que nous posons traditionnellement, enfin une tradition qui n'a que 2 épisodes, mais voilà, nous l'ancrons dès à présent dans la tradition. Et tu as déjà un peu répondu à la question, mais peut-être qu'il y a une étape intermédiaire. Comment gardes-tu trace de tes lectures, puisque là tu nous parlais du calendrier de l'Avent que tu réalisais. Est-ce qu'il y a quelque chose entre la lecture et le calendrier de l'Avent pour justement garder trace?
Ça, c'est une question passionnante, je trouve. Enfin, je pense moi, j'aurais jamais fini mon système de traces. Donc, j'ai pas de. Je suis une nana sur Instagram qui s'appelle Marie Robert, que vous connaissez peut-être certainement, qui est un compte qui s'appelle Philosophie is Sexy, et qui est autrice par ailleurs d'ouvrages de vulgarisation de la philo. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette femme qui par ailleurs est directrice. Enfin, elle a fondé des écoles Montessori à Paris, à Marseille. Voilà. Et elle a tout un système où elle dit, alors quand je lis un livre, j'ouvre une fiche sous Word, je note les passages qui m'ont plu, ce que j'en ai pensé, etc. Et je me dis, oh là là, mais bon, dans une logique d'autoflagellation et de culpabilité, mais c'est super, je devrais faire ça. Et puis après, je me suis rappelé que bon, si j'avais jamais fait ça jusque-là, c'est que peut-être
C'était
c'était
pas
pas
fait
ma
pour ça.
came. Non, voilà. Donc, comment j'archive mes lectures? En fait, à un moment, je notais dans mon bullet journal, j'avais une page lecture et je notais juste les titres de tout ce que j'avais lu dans l'année. Enfin, au fur et à mesure, et puis je mettais des petits plus en fonction de si j'avais aimé ou pas. Ça, il faudrait peut-être que je reprenne d'ailleurs, parce que je ne le fais plus. Et puis après, il y a, je dirais, presque 4 ans, j'ai retrouvé, je ne sais pas pourquoi, mes parents ont dû faire du tri chez eux, ou je ne sais pas, j'ai dû ouvrir un carton. Quand j'étais ado, j'avais, vous savez, un cahier Claire Fontaine dans lequel je notais des poèmes, enfin bon, bref, le truc d'adolescente, quoi. Et j'ai laissé tomber complètement ce carnet entre, je sais pas, mes 22 ou 23 ans et mes 35 ans. Enfin, je... Et en fait, je me suis dit, ah, mais c'est quand même hyper bien. Et donc, depuis, en fait, j'archive mes lectures comme ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la lecture, quand une phrase me plaît, en fait, je me fiche de savoir, je me fiche d'archiver ce que j'en ai pensé, etc. Mais ce que j'aime, c'est la langue et aussi toutes les potentialités d'une phrase ou de d'un petit paragraphe. Donc quand un truc me plaît dans un livre, je fais un truc qui peut faire hurler certains ayatollahs du livre, mais je corne la page. Voilà, c'est un grand sujet de conflit entre mon conjoint et moi qui ne comprend pas qu'on puisse
Ah,
annoter un livre avec un crayon de
mais les corps
bois, qu'on puisse corner
vieillissent,
une
les livres aussi.
page. Voilà. Donc voilà. Donc moi je corne la page. J'ai pas toujours un crayon, je souligne pas la phrase qui m'a plu, mais je corne la page. Et quand j'ai fini le livre, je reprends toutes les pages cornées. Donc j'ai fait ça ce matin d'ailleurs là avec un bouquin que j'ai sous la main. Je reprends toutes les pages cornées et puis je me dis, je relis en fait la page pour voir si la phrase qui m'a frappée
Te plaît
me
toujours
frappe
autant?
toujours. Ou voilà, parfois non, parfois oui, parfois je pense que c'est une autre qui finalement me frappe. Et ensuite j'écris ça dans un petit carnet. Donc j'écris juste. Je fais ça mois par mois, quoi. Donc j'écris novembre 2024 et puis je note toutes les phrases issues des bouquins que j'ai lus en novembre. Et comme ça, en fait, je sais quel livre j'ai lu, parce que c'est rare que je lise des livres sans cornet de page. Et j'en garde une trace. Et donc ce carnet me sert à constituer le calendrier de l'Avent. Voilà, je fais des miscellanées, en fait.
D'accord.
C'est une copine hier
Et
qui m'a dit, bah, en fait, tu fais des miscellanées.
donc tout ce processus est totalement analogique.
Tout ce processus est totalement analogique. Effectivement, je n'ai. Alors, pas total. Enfin, parfois, je note des trucs, je note des réflexions liées à des bouquins sur mon téléphone. Soit parce que pour le coup, j'ai rarement un petit carnet papier avec moi. Enfin, j'en ai un dans mon sac à main, mais je sais pas, le matin quand je suis en train de lire, normalement, mon iPhone n'est pas allumé. Mais si j'ai vraiment envie de noter un truc qui me fait réfléchir, machin, bah, je vais allumer mon iPhone et ouvrir une appli note. Enfin, voilà, ouvrir une note dans mon appli note et puis noter ça dans mon appli note. Mais sinon, effectivement, tout ce processus est analogique. Oui,
Et tu
ouais.
disais que tu lisais crayon en main, et donc tu ne notes pas tu ne fais pas de notes marginales en soulignant la phrase et puis en notant dans la marge. Ça, c'est vraiment trop génial, ça me fait penser à ça, ou choses comme ça.
Alors, ça m'arrive sur les essais. Je le fais sur les essais. Parfois, je me dis, ah, ça, c'est incroyable. Enfin, voilà. En fait, je note plutôt ce à quoi ça me fait penser. Mais sur les romans, non. Sur les romans, je note pas. J'annote pas du tout les romans. Mais moi, en fait, j'ai compris très tard. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai compris en me mettant à écrire. Je sais pas, le process d'écriture, enfin, j'ai regardé le process d'écriture de façon différente à partir du moment où moi-même je me suis mise à écrire. Donc, avant que j'écrive intensément, c'est-à-dire avant 35 ans, je sais pas, le livre était un truc un peu sacré et un peu on n'y touche pas, quoi. Je peux pas, enfin voilà,
Surtout
et
si
ça
ton
me
mari
fait rire
voulait
ce
les
que tu disais.
revendre.
Non, mais ça, à la rigueur, il s'y est pas mis il y a si longtemps que ça, donc c'était pas tellement un sujet. Mais ça me fait penser à ce que tu disais, Yann, tout à l'heure sur le fait de lire à voix haute à des élèves et pas pour qu'ils s'interrogent sur la présence de telle ou telle virgule, etc. Mais moi, j'ai compris, et du coup, c'est un grand débat avec mon fils en ce moment, mais j'ai compris le sens des commentaires composés quand je me suis mis à écrire moi-même des manuscrits en me disant, bah, oui, en fait, quand tu écris, ça devient hyper intéressant. D'avoir une position de lecteur sur, ah non, mais attends, mais en fait, pourquoi il a fait tel choix, etc. Mais je crois que au mi-temps de la trentaine, sur la littérature de fiction en tout cas, j'avais une vision un peu magique de, enfin, vraiment le truc, mais complètement con, hein, mais de le génie de Victor Hugo te tombe dessus, t'écris tout d'un trait, et puis c'est parfait, parce que c'est comme à l'école où tu dois rendre ta copie, et soit t'as 20, soit t'as... Enfin, soit t'as pas 20, quoi. Et désolée Yann, mais moi j'en veux beaucoup aussi à l'enseignement de la littérature en France, de ne pas m'avoir fait comprendre plus tôt, en fait, que lecture et écriture étaient intimement liées. Et en fait, je trouve qu'on te fait lire énormément, mais qu'on... Enfin, moi, on m'a jamais... Enfin, on m'a fait écrire des rédactions au collège, mais on m'a jamais fait écrire, quoi.
Non, c'est vrai qu'on n'écrit pas assez de toute façon à l'école. On lit pas assez parce qu'on n'a pas le temps. Je crois qu'une raison pour laquelle les devoirs existent, par exemple, c'est parce qu'on n'a pas le temps à l'école, en fait. Donc on délègue sur le temps hors scolaire ce que l'on voudrait que les élèves passent, donc avaler Victor Hugo, par exemple, ou écrire tel texte, un commentaire composé. Mais rien que ça, hein, de toute façon, la prédominance du commentaire composé ou de la dissertation sur des choses qui ont quasiment disparu du paysage des programmes, comme le sujet d'invention, par exemple. Bien que l'intérêt ici, c'est d'analyser, voire répéter un discours dominant dont on sera inspiré sur Internet. Je ne sais pas s'il existe d'ailleurs une histoire un petit peu des exigences en matière de français, tu vois, mais quand tu repenses à ce qu'était la guerre des Michards, ou même avant, tu vois, quand tu lis le Contre Sainte-Beuve de Proust, où on voit que finalement l'approche de la littérature, elle était essentiellement fondée sur l'homme et non pas sur l'œuvre, jusqu'au formaliste que dénonce Todorov dans son livre La littérature en péril. Voilà, où il dénonce justement cet excès du formalisme. Je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais je crois que je disais quelque chose. Je ne sais pas s'il existe une histoire comme ça de ces, je dirais, ces errements analytiques. Voilà. Et effectivement, moi aussi, j'en veux un petit peu à l'enseignement. J'en veux aussi beaucoup à ceux qui font les programmes, en fait, qui sont excessivement classiques, par exemple. Je trouve qu'on pourrait faire beaucoup mieux, en fait.
C'est marrant parce que ça fait écho à ce que Anne nous disait en introduction. Quand Anne, tu évoquais cette idée que les garçons décrochent sur la lecture au moment de l'adolescence, j'imagine qu'il y a plein de moments comme ça dans la vie où tu vas t'éloigner finalement de la lecture et venir très tardivement peut-être à l'écriture en te disant bah, de toute façon je le ferai plus tard quand j'aurai le temps. En fait, on a un véritable talent, d'un point de vue civilisationnel, pour découdre pourtant ce qui participe à la fois de la catharsis, parce qu'en écrivant, en verbalisant, eh bien, ça évite de venir agresser son voisin ou autre, et en se privant aussi d'un patrimoine beaucoup plus riche, parce qu'effectivement, Yann, tu disais que c'est une approche très classique. Oui, combien d'auteurs finalement n'auront jamais la moindre chance de pouvoir pénétrer dans les programmes. Et donc, quelle est la probabilité de pouvoir un jour accéder à ces œuvres, de les découvrir, de les partager? Ça laisse un peu songeur,
Alors,
puisque c'est bien le rôle de l'école de pouvoir justement souffler dans les voiles massivement pour encourager la curiosité et la créativité. Au final, si on reste sur les mêmes chemins pendant 20 ans, c'est très difficile en
20 ans,
sortir.
des centaines d'années, parce qu'en fait, tu vois, La Fontaine, Anne, je t'écoute.
Non, non, mais
On t'écoute.
je partage et en fait là-dessus, pour moi, il y a aussi en plus qui se rajoute à ça un biais de genre et un prisme de genre, c'est-à-dire que, enfin, moi, je me suis pas autorisée à écrire jusqu'à ce que, en fait, mon travail me légitime dans l'écriture, enfin que quelqu'un me recrute pour ça et que je me dise ah peut-être en fait j'ai le droit d'écrire. Aussi parce que, et c'est aussi ce pourquoi j'ai fondé la Guilde des Plumes, parce que moi, j'avais passé toute mon adolescence et ma vingtaine à me dire, la littérature, c'est un truc de mâle blanc mort.
Oui,
Vieux.
c'est ça.
Non, mais enfin, et
Est-ce
du
qu'on dit
coup,
soit mort, effectivement? Oui, parce que tu as parlé tout à l'heure du prix Goncourt, le Goncourt des lycéens. Effectivement, il y a des œuvres magnifiques là-dedans. C'est comme ça que j'ai découvert Philippe Claudel, par exemple, ou Alice Zeniter, par exemple.
Bah, complètement. Et moi, j'ai offert à Lise Zénitaire je ne sais pas combien de fois, à des gens d'ailleurs qui étaient très éloignés de la lecture et qui m'ont dit, sont revenus vraiment. J'avais l'impression d'avoir offert une drogue, quoi. J'avais un collègue qui était revenu en me disant t'en as d'autres des comme ça? Et j'étais là, genre, non, mais alors.
Là, tu as ouvert
ton ordinateur. Voilà.
mais voilà, je trouve que sur cette histoire de. Parce que la question au départ, c'était est-ce que je garde trace de mes lectures, etc. Mais parce que pendant très longtemps, moi, j'ai estimé que la lecture et l'écriture, c'était des trucs hors de moi. C'était des choses que je ne pouvais que recevoir et dont je ne pouvais pas être productrice. Aussi parce qu'on ne m'avait pas donné à voir de femmes jeunes qui écrivaient autre chose que de la littérature pour enfants. Parce que des femmes jeunes qui écrivent de la littérature jeunesse, ça, il y en a. Mais comme c'est considéré comme de la sous-littérature, voilà. Ou alors qui écrivent du roman de quête gare, comme on l'appelle, et que tout le monde regarde avec beaucoup de dédain. Et ça, je trouve ça quand même... Enfin, ça ne cesse de m'interroger, finalement. Parce qu'une fois qu'on écrit, quand on sait combien c'est douloureux, long, compliqué de remettre son morceau, enfin, son ouvrage sur l'établi, bah, ouais, moi, j'aime pas forcément tous les romans de Virginie Grimaldi, mais je me dis, franchement, la nana, elle publie un roman par an, quoi. Et un roman qui se vend à des centaines de milliers d'exemplaires. Et en fait, ça, c'est quand même quelque chose qu'on devrait regarder avec admiration, quoi. Enfin, voilà. C'était mon petit laïus féministe.
Eh bien, je crois qu'on va pouvoir sortir l'armagnac, hein, parce que là, on va tous partager cet avis. Alors, autant partager le petit verre ensemble, non? Allez, servons notre petit armagnac. Alors, Anne, tu avais un livre sur tes genoux tout à l'heure. Quel est le livre que tu lis en ce moment? Si c'est avouable, bien sûr.
Oui, alors, ça, c'est un livre que je viens de finir. C'est un essai qui s'appelle « Un sens à la vie, enquête philosophique sur l'essentiel ». Alors, typiquement, ça, c'est un livre que j'ai vaguement... Enfin, la Grande Librairie a fait une émission sur... le sens de la vie, enfin, invité des auteurs et des autrices. Il était dedans, mais j'ai pas vu cette émission. Mais j'ai juste vu qu'ils avaient fait une émission là-dessus. Je me suis dit, ah, c'est intéressant, certainement, parce qu'en plus, en ce moment, je me pose beaucoup cette question. Et après, je suis allée à la librairie, ma librairie préférée à Nantes, qui est la librairie Coiffard. Intelligemment, elles avaient mis ça en tête de gondole. Et du coup, j'ai adoré la couverture et j'ai adoré la quatrième de couve. Donc, je l'ai acheté et je l'ai dévoré. Voilà, et donc ça, j'ai fini il n'y a pas longtemps. Et en ce moment, je lis sinon Jacaranda de Gaël Faye, qui a eu le Goncourt. Non, c'est pas lui qui a eu le Goncourt.
Non, il n'a pas eu.
Pardon, c'est...
Alors, c'est Houry, le livre, mais l'auteur.
Oui, c'est pas Boualem Sansal dont on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais c'est l'autre auteur. Bref, je vais retrouver.
Je google.
Franco-algérien. Merci. Google est notre ami. Donc voilà, donc je lis Jacaranda de Gaël Faye, que je trouve très chouette.
Évidemment,
après,
le site de l'Académie Goncourt n'est pas à jour. Ça s'arrête à 2023.
Mais
et donc,
attends,
oui, c'est Kamel Daoud.
Ah, Kamel Daoud, voilà. Qui avait réinterprété Camus dans un livre précédent. Voilà, donc je lis Jacaranda de Gaël Faye, dont j'avoue que je comprends moyennement, en tout cas sur le style, pourquoi il était en finale du Goncourt. Mais j'adore Gaël Faye et je trouve le livre... l'histoire est très chouette et j'en suis aux trois quarts, je crois. Voilà.
Et est-ce qu'il y a des livres que tu as envie de relire? Et tu te dis, il faut absolument que je m'y recolle, celui-là.
Je me dis rarement ça. En fait, je fais assez confiance à mes impressions de lectrice. Donc, si un livre me tombe des mains au bout de 50 pages, je ne vais pas m'acharner. Enfin, sauf pour Abel Quentin. Je ne sais pas pourquoi je me suis acharnée. Mais sinon, d'habitude, je ne m'acharne pas du tout. Et j'y reviens pas. Après, quand même, alors sur les livres où je me dis, ah, il faudrait que j'y revienne, parce que je les ai pas finis, et que j'ai l'impression que je suis passée à côté d'un truc, vous savez, un peu les livres dont tout le monde parle. Il y a La montagne magique de Thomas Mann. Parce qu'en fait, ça, c'est un livre que, alors que je suis germaniste, germanophile, etc., que je ne connaissais pas, dont Philippe Lançon parle en long, en large et en travers dans Le Lambeau. Il dit que c'est le livre qui lui a sauvé la vie à l'hôpital. Et donc, j'ai acheté ce livre, j'ai essayé de le lire et pour l'instant, j'ai pas réussi. Donc, je me dis qu'il faudrait que j'y revienne.
Ah, tu lui donneras
Et
une
un
seconde
autre
chance.
livre. Ouais, voilà. Un autre livre où je me dis qu'il faut que je lui donne une seconde chance, c'est Les Bienveillantes de Jonathan Mittal.
Ah oui, ça remonte à un moment, ça. Ouf.
Ben ouais, ça remonte à un
Ouais.
moment, mais j'avais lu les 100 premières pages. Donc, je suis quand même historienne spécialiste de la mémoire de la Shoah. Et bon, j'avais arrêté aussi parce que c'était un moment où c'était aussi mon sujet de master et mon sujet de thèse et que mon compagnon en avait marre que que je fasse des cauchemars, que je me réveille en plein milieu de la nuit en pensant que la Gestapo allait débarquer, ou que je me réveille et que je lui dise j'étais dans un train de déportation, tous les gens étaient morts et les SS me demandaient de descendre. Donc c'était, je pense, salutaire, un peu comme à un moment j'ai eu une phase sur tous les livres sur l'inceste et bah, il faut arrêter parce que vous n'êtes pas imperméable. En tout cas, moi, je ne suis pas imperméable.
Le dialogue avec le livre
Voilà.
peut devenir périlleux à ce moment-là.
Oui, complètement. Et après, je me dis que je... Mais ça, c'est parce que c'est mon cadet qui m'a contaminée, mais j'aimerais bien relire toute la saga Harry Potter, parce que je trouve que c'est une saga hautement philosophique. Et même si J.K. Rowling a des billets,
Avrillé.
oui, à vriller, mais même, hein, en fait, finalement, quand même, je disais l'autre fois un livre, enfin, un copain m'a envoyé un livre, donc il y a des gens chez Dalloz qui ont publié Le droit dans Harry Potter, avec des articles sur, voilà. Et donc, il y avait un article sur le recrutement des enseignants à Poudlard,
Excellent.
pour dire qu'en gros, bah, il n'y avait pas de recrutement, d'ailleurs, ils n'avaient pas le droit à la retraite, enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et qui soulignait que J.K. Rowling était quand même pas très cohérente. Sur le fait que c'était un monde dans lequel l'esclavage
C'est les
des
elfes.
elfes de maison
Bah oui.
était possible, alors que par ailleurs, les sorciers défendaient un monde de justice. Enfin, voilà.
Il y a
Mais
des
bref, je
néo-réacs
relirais
aussi
bien.
chez les
Hein.
sorciers, en fait.
Ouais, c'est ça. Mais je relirais bien Harry Potter pour me replonger dans cette philosophie-là. Mais voilà. Et sur les livres que j'ai envie de lire et que j'ai pas encore lus. Franchement, je sais pas là. J'en ai tellement dans ma pile à lire que, en vrai, voilà. Il y a Simone Veil qui m'attend. Simone Veil, la philosophe,
Oui.
pas la femme politique. Et ça, c'est le prochain que j'ai envie de lire.
Ça fait un joli programme, hein, entre Thomas Mann, Les
Ah oui.
Bienveillantes, Harry Potter, Simone Veil. Le problème, c'est
J'en ai
toujours
pour
la
un peu de
question
temps.
du temps. Hein. Bon, c'est une
Ouais.
banalité de le dire, mais comment trouver ce temps? Moi, c'est pareil, Thomas Mann, je l'ai jamais lu, moi, cet ouvrage. Enfin, c'est pareil. Et il faudra que je le fasse un jour. Hein.
J'avoue
Ou
que je n'en ai
pas,
que
en
des
fait,
souvenirs de
peut-être
lycéen,
que...
puisque ma prof d'allemand était passionnée, donc quelques extraits, donc ça remonte aussi à fort longtemps.
Mais moi, j'ai un petit côté quand même, plus l'institution, quelle que soit l'institution, mais longtemps l'institution scolaire, encense un auteur, généralement un auteur, parce que c'est rarement des autrices, moi, j'ai eu envie de le lire. Donc, pendant des années, je n'ai pas lu Balzac, par exemple. C'était hors de question de lire Balzac, jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, c'était vraiment très bien Balzac. Enfin, en description de la comédie humaine, voilà, c'était vraiment
Je pense
super.
qu'il
Mais
suffit d'imposer un livre pour ne pas donner envie de le lire, en fait.
oui, complètement. Mais parce que t'as pas le
Spécialement quand
choix.
tu l'imposes trop tôt, en fait. Tu vois, Balzac, moi j'ai eu le même sentiment avec Zola aussi, qui me sortait par les yeux. Et puis, un jour, je pense que j'ai dû avoir une révélation similaire à la tienne. Je me dis, waouh! En fait, c'est vachement bien. On m'avait rien dit.
Mais à
Enfin, on me
l'inverse,
l'avait dit, mais pas comme il fallait.
Exactement. Mais à l'inverse, moi, je me souviens, j'avais une enseignante de français en quatrième qui était incroyable et qui nous avait fait lire Sa Majesté des Mouches. Et en fait, quand j'y réfléchis, je me dis, en plus, moi, j'étais dans une classe de quatrième où, franchement, je pense qu'un tiers de la classe a eu des démêlés avec la justice. Ensuite, en grande partie, c'était c'était compliqué. Et je me dis, elle avait un, enfin, elle nous avait fait lire ça sur cette société d'adolescents hyper violente, etc. Et pour le coup, j'avais adoré. Mais parce qu'en fait, elle avait une approche qui était très littérature jeunesse finalement. Enfin, elle nous l'avait fait lire et ça nous avait parlé parce que c'était des gamins comme nous. Voilà. Donc
Ouais.
c'était vraiment pas mal. Alors qu'en seconde, on m'a fait lire Le Horla de
De
Maupassant.
Maupassant,
Bon,
ouais.
bah. Là, tu te dis, OK, en fait, qu'est-ce que vous voulez, qu'on fasse tous une dépression nerveuse ou comment ça se passe? Pas compris. Voilà.
Pour le coup, ma fille en a parlé hier, je vais recommander plutôt Théophile Gautier avec le roman de la momie. J'ai dit, bah, tu verras, c'est un peu plus exotique.
C'est plus difficile à lire aussi, je pense,
On va
que
tester,
Maupassant.
histoire de
Ouais.
sortir un peu des sentiers trop labourés. Eh bien, mon cher Yann, je te propose justement d'amorcer la conclusion de ce délicieux moment en compagnie de Anne.
Alors, qu'est-ce que tu dirais si on repoussait juste pour quelques minutes la conclusion pour une dernière question, en fait, parce que tu as parlé de ton expérience, je dirais ratée, avec Books et l'iPad, mais c'était couru d'avance parce que je te dis, l'application est quand même pas terrible. Et puis lire sur iPad, c'est pas très, très confortable. Enfin, moi, j'ai réussi à transformer mon iPad mini en liseuse, mais au prix de quelques efforts. Enfin, voilà, je lui ai appliqué un filtre plastique pour opacifier l'écran. Enfin, voilà. Il y a plein de choses, mais pour moi, le mieux, c'est vraiment la liseuse, hein. En tout cas, en ce qui concerne la lecture numérique. Et toi, tu disais que tu n'avais pas franchi le Rubicon, tu n'avais pas essayé, tu t'es dit que c'était un appareil supplémentaire qui serait inutile, c'est ça?
Ouais, en fait, je me suis toujours dit que ouais, ce serait juste un appareil supplémentaire. Après, pourtant, les gens me disent tous, mais Anne, parce que alors, moi, je ne sais pas partir plus de 2 jours de chez moi sans emmener à minima 2 livres, parce que je ne sais jamais ce que je vais avoir envie de lire. Et puis souvent, je suis en train de lire un essai et en même temps, je lis un roman. Donc voilà. Et donc, quand je pars 3 semaines en vacances. Enfin, souvent, on a une valise entière de livres. Heureusement qu'on a une grande voiture. Mais donc, beaucoup de gens m'ont dit, mais je comprends pas pourquoi t'as pas une liseuse. C'est hyper bien parce que du coup, bah, tu télécharges tous tes livres dessus et puis ensuite, t'as ce tout petit appareil, quoi. Et je sais pas, il y a le côté objet, le côté, mais Guylain l'a dit dans l'épisode que vous avez enregistré tous les deux, le fait que moi je trouve ça très frustrant parce que je sais que si j'ai aimé, en fait, bah, je vais pas pouvoir le prêter à personne. Alors après, ou alors il faut trouver des dealers d'e-pub.
Ça existe.
Bah, il se trouve que dans ma famille, il y en a un.
Oh.
Il a fait ça déjà avec les séries télé et il fait ça aussi pour mes nièces avec les e-pubs parce que j'ai une nièce qui lit énormément et pareil, voilà. Mais bon, ça me fait suer de dépendre de quelqu'un pour lui dire, est-ce que tu pourrais me télécharger ça, ça, ça et ça? J'avoue que moi, j'ai toujours pas compris comment. Parce que dans un livre, quand même, le coût de fabrication représente, je sais pas, un tiers du coût peut-être, ou voilà. Comment, quand on enlève le coût de fabrication, on vend quand même un EPUB aussi cher qu'on vendrait un livre?
C'est
Enfin...
à cause de la loi Lang, non, sur le prix unique du livre
Ah, peut-être. Ok,
Je
j'avais
pense, hein.
jamais...
J'avoue que c'est un problème que je n'ai quasi pas, parce que vu que je lis quasi qu'en langue anglaise, par contre, je constate régulièrement, parce que j'ai des suggestions de lecture, qu'on me suggère forcément et l'édition anglaise et l'édition française, et quand je compare le prix, je dis, ah non, ben non, en fait, je vais rester en langue anglaise.
Ah, c'est
C'est
moins
clairement.
cher, hein. Mais même les livres physiques sont moins chers en anglais.
On peut, oui, mais clairement. Et alors, Anne, si tu as suivi notre premier épisode, j'ai tendance à acheter les livres en double, en version numérique et en version papier. J'avoue que je souffre peut-être moins de d'une explosion financière, parce que, effectivement, et les éditions de poche anglaises, notamment britanniques, et l'édition même papier, me coûtent moins cher. Finalement, c'est presque à dire, je peux avoir la version numérique et la version en papier, je suis sur le même prix que la version française en papier tout court. Ou numérique tout court. Donc, dans la vraie vie, ça revient au même. Mais je peux comprendre effectivement, Anne, ta frustration à ce sujet. Ça pose un vrai problème.
Alors, à propos de frustration, du coup, je vais exprimer la mienne, parce qu'en fait, je voulais acheter Introduction à la médiologie de Régis Debray,
Ouais.
que je n'ai jamais lu. Hein. Et je confesse, j'ai honte. Et ben, impossible de trouver la version numérique.
Est-ce
Ni
qu'elle n'est pas,
légalement, ni.
elle est pas disponible? Peut-être que le site a été enlevé. Il y avait les cahiers de médiologie où tu avais les ouvrages qui étaient librement téléchargeables. Il faudrait voir si le site
Écoute,
existe encore.
si tu peux soulager ma frustration, écoute,
Oui.
ça va éclairer mon samedi. Mais de fait, alors, bon, tu me redonneras la référence tout à l'heure, mais ouais, je n'ai pas pu le télécharger, je te dis, ni légalement, ni illégalement. Si tu vas sur le site de PUF, il est qu'en version papier, même si tu as un bouton, un menu trompeur qui te dit sélectionner votre format, et puis en fait, il n'y a rien à sélectionner. Et sur Amazon, c'est pareil, hein, il est qu'au format papier. Donc ça, c'est éminemment frustrant parce que, moi, j'adore lire sur liseuse. Et donc, du coup, je l'ai acheté en papier. Et en fait, là aussi, je confesse, c'est la première fois que j'achète un livre papier depuis, je sais même pas, en fait, des années et des années.
Mais du coup, moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu trouves mieux sur liseuse? Parce que je me dis, j'ai dû passer à côté d'un truc.
Ah, bah c'est un vaste débat. Hein. Après, il y a plein de petites choses, je dirais, celles qui paraissent évidentes. Hein, comme tu vois, tu le disais tout à l'heure, par exemple, tu peux lire dans le noir. Donc, ça, c'est pratique de ne pas avoir cette source, enfin,
Sans te
d'avoir
flinguer les
besoin
yeux, hein,
de
parce
cette
que
source de lumière,
c'est
oui.
pas un LCD
Oui,
qui
c'est ça
note.
aussi, hein, parce que tu parlais des écrans LCD, mais même les écrans qui sont de façon rétroéclairée, que ce soit du LED, de l'OLED, ça reste pénible hein, dans le noir quand même. Donc la liseuse avec son encre électronique offre un confort. Bon, après, il y a plein de choses, alors je cite pêle-mêle, hein, mais la légèreté. C'est-à-dire que lire d'une main, franchement, c'est appréciable. Pas forcément pour lire des livres dont on aurait honte, mais quand tu lis en buvant ton café, des choses comme ça. Je dirais aussi, comme ça, pêle-mêle, je dis les premières choses qui me viennent à l'esprit, mais je crois que la découverte de la liseuse, pour moi, a été concomitante de la lecture en langue anglaise, en fait. C'est-à-dire que cette pratique s'est développée en même temps que la pratique sur écran. Je pense que, en fait, pour moi, c'était difficile de lire en anglais sur un ouvrage physique, sur du papier, parce que là, avec la liseuse, j'avais le dictionnaire intégré, j'avais ces choses-là. Même la possibilité d'écouter. Donc là, sur l'iPad, par exemple, je peux écouter le mot, je peux traduire la phrase aussi, pas uniquement convoquer le dictionnaire intégré, mais avoir la traduction complète. Donc ça, c'est assez précieux. Et puis après, en fait, je pense que c'est le point essentiel pour moi, c'est toute l'extraction des données, c'est-à-dire en fait tous les passages que j'ai surlignés qui se retrouvent dans un document. Moi, je suis un grand fan de Readwise qui quotidiennement va sélectionner des trucs que j'ai lus et qui me dit, tiens, tu te souviens? Bah non, je ne me souvenais pas justement, merci. Et donc, ça me rafraîchit la mémoire. Donc, y a plein de choses comme ça. Mais après, il y a eu des moments, des épisodes fondateurs hein, de la transition vers le numérique. Parce que tu vois, la librairie enfin, la bibliothèque que je vois derrière toi, en fait, c'est vrai que j'ai dû la déménager plusieurs fois et au bout d'un moment, j'en étais venu à la détester. Et puis, c'est vrai que quand tu as parlé de ta valise de livres, je t'imaginais dans un avion, mais en fait, donc là c'était en voiture, donc mais tu vois, au prix du kilo, quand même, ça fait cher quand même la lecture. Donc c'est vrai que comme on a pas mal bougé ces derniers temps, je pense que c'était plus facile aussi d'avoir des liseuses. Et puis après, pour l'aspect physique, quand même, puis je mets un terme à ce long monologue, pardon, je crois que je retrouve un plaisir physique. Alors, Un plaisir physique de l'objet, de la tablette, de la liseuse. Ghislain a partagé. Mince, comment il s'appelle ce truc? C'est le Daylight Computer, c'est ça? Attends. Oui, c'est ça. Hein. C'est magnifique. Bon, c'est très cher aussi, mais
Oui, 700 $ hein, pour le moment, mais.
quel bel objet. Je suis vraiment impatient de voir comment tout ça va évoluer. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont devenir très fines, très proches du papier, très pratiques à utiliser, très riches en fonctionnalités. Bon, après, malheureusement, il faut éliminer tout ce qui est distraction qui pourrait quand même se nicher dans ces tablettes. Mais ça, c'est un autre sujet.
Et puis c'est, au moins la liseuse ne sert qu'à lire, dans l'absolu. Au moins.
Oui, c'est vrai.
Après, je me souviens d'il y a quelques années, c'était au moment de la sortie de l'iPad, hein, et j'étais fier de pouvoir dire à ma collègue de philo, c'est un objet monotâche. J'ouvre le truc et je ne peux faire que ça, parce que sur le premier iPad, il n'y avait même pas de multitâche. Je lançais Safari, c'était Safari, point barre. Mais elle m'avait dit, mais regarde ce que tu as aussi sur ta table, tu as aussi ton téléphone. Et oui, donc c'est vrai que la liseuse, au moins, on coupe tout. Et il faut veiller effectivement à mettre aussi son téléphone en sourdine pour parce qu'on aurait la même rupture cognitive avec son livre, hein. De la même
Ah
façon.
oui, non, mais ça, c'est clair que moi, je sais que si je lis avec mon téléphone et les notifications activées, bah, en fait, le moindre truc, voilà. Et à l'inverse, j'ai pris beaucoup plus le réflexe, par exemple, de. Parfois, je lis un truc, ça me fait penser à quelqu'un, je vais le photographier, lui envoyer et lui dire tiens, ça m'a fait penser à notre conversation de la fois précédente ou ah, je pense que ce livre te plairait. Chose que tu pouvais pas faire avant et ça, je trouve que c'est quand même vraiment très très riche. Enfin, je trouve que ça crée une forme d'intertextualité entre tes conversations, tes lectures et moi, j'aime bien ce truc-là. Mais tu vois ce que tu dis, Yann, je me dis, ah tiens, ça c'est vrai que j'avais pas vu ce truc-là, mais moi je lis beaucoup en anglais et en allemand parce que je parle les deux langues. Et en fait, j'attends un peu avec impatience chaque année mes voyages à Londres ou à Berlin pour refaire le plein en librairie. Et je me dis, ouais, c'est vrai que je pourrais. Parce qu'il y a plein d'essais. Enfin, les Anglais, je trouve, ils sont assez forts pour faire des essais pas trop intello et à la fois vachement chouettes à lire. Et c'est vrai que ce truc de globalement, tu sais lire en anglais ou en allemand, mais parfois il y a une phrase ou un mot qui revient tout le temps et c'est relou de prendre ton téléphone, de vérifier le mot. J'avais pas du tout pensé à cette option de traduction intégrée et aussi de d'annotation qui te renvoie vers un document quoi, d'automatisation de tes notes. Tu me fais réfléchir du coup.
Ah bien, nous allons avoir cœur à prolonger justement cette découverte et à te mettre le pied à l'étrier.
Et c'est une conclusion qui n'en est pas une, c'est une ouverture. Ou alors c'est une conclusion qui, dans la tradition de la dissertation, tu vois, ouvre sur une ouverture, une invitation
Exactement, oui.
future
To be
à reparler de
continued.
tout ça. Hein. Et moi, je vous parlerai de mon expérience de Régis Debray sur papier, parce que sincèrement, mais je me retrouve comme un idiot, moi, avec un livre sur papier. C'est-à-dire qu'en fait, non, mais c'est vrai, comme les enfants qui auraient été habitués aux écrans, qui voudraient zoomer, qui voudraient cliquer sur le mot. Enfin, j'ai pris de telles habitudes que, en fait, c'est le papier qui est devenu un peu une étrangeté pour moi. Donc, ça va être marrant. J'avais tellement envie de lire ce livre que. Dont j'avais repoussé l'achat parce que je le voulais sur tablette, mais
Tu vas aimer. Enfin,
bien.
c'est, je crois que ça va
Oui,
remonter à.
forcément.
Ça va être, je crois que c'est en 2000, je crois que j'ai dû le lire. Ça remonte. Ouais, ça remonte. C'est avant ma maîtrise, ouais, donc
Bah,
oui, ça remonte.
oui. Ça remonte. Ah oui, c'est qu'on n'est plus tout jeune. Hein. Et
Ah
justement, ça, c'est un argument de la liseuse. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a bien un jour où je vais afficher 3 mots par page. On
que tu
zoome
pourrais pas faire avec un
pour y
livre
voir
papier,
mieux.
c'est sûr, ou alors il va falloir sortir la
Non, tu peux
loupe.
pas. Ou alors, il faut des livres papier, enfin des livres spéciaux, tu vois. Je me souviens, on m'avait offert Fred Vargas et la personne n'avait trouvé que la version pour malvoyance. Donc, il y avait très, très peu de mots par page. C'est comme ça que j'ai découvert Fred Vargas. Mais donc, il faut des éditions spéciales. Sinon, effectivement, il y a de la loupe.
Mais quand tu es fatigué, effectivement, moi je me souviens que dans ma la bibliothèque de mon enfance et de mon adolescence, il y avait tout un rayon livres grands caractères là. Et en fait, c'est assez agréable aussi, hein. Enfin, ça te rappelle les livres de quand tu étais petit, quoi. C'est-à-dire,
Oui, c'est vrai.
y a 6 phrases sur une page, ou peut-être un peu plus, mais je trouve que ça, c'est quand même ce truc de plus tu vieillis, enfin, plus. Dans les albums pour enfants, au début, t'as pas de mots, puis après, t'as des phrases, mais très, très grosses, puis après, t'as un peu plus de phrases. Et puis un jour, il passe au sans images avec des phrases toutes resserrées, et c'est comme s'il y avait aussi une accélération. Et je trouve que rien que le fait d'aérer les phrases dans la page, ça te donne une autre expérience de lecture, quoi.
Ouais, c'est plus accessible aussi, hein. C'est plus facile à lire, c'est plus agréable, je pense. Ouais.
Ça respire un livre aussi.
Ça respire. Ouais, ça respire. Oui, c'est comme le gruyère, il faut des trous. T'as des alinéas, des sauts de page, des sauts de section.
Alors j'avoue que j'avais pas prévu le fromage après l'Armagnac, hein, mais
C'est n'importe quoi ce repas, hein, en fait. Hein.
c'est vrai qu'au
Dessert
final on commence
Armagnac,
par des madeleines,
fromage.
donc quoi.
On a parlé de fromage aussi la dernière fois. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens.
C'était même une
Ouais.
ode au fromage, hein, parce que
C'était une.
François est particulièrement fan.
On a peut-être de quoi faire un podcast sur un podcast culinaire, en fait. Bon, sur ces considérations, puisque cet épisode sortira en décembre, je vous souhaite d'avance un joyeux Noël. Nous, on
Très
se
bien, très bien,
reverra,
merci
Ghislain,
Baptiste.
avant Noël, parce que je pense qu'il faudra qu'on organise notre épisode peut-être en amont si on veut qu'il sorte en début
C'est ça,
janvier.
exactement. Entre la bûche et
Ah non,
entre.
non, c'est celui de François qui sort en décembre, et donc Anne, ce sera janvier. Donc c'est
Bah
bon, on
voilà,
est dans
c'est
les
bon.
temps.
Vous êtes organisé.
Ouais. Merveilleux. Ouvrir l'année 2025 avec toi, mais c'est vraiment chouette.
Merci
Écoute,
encore.
tout plaisir est pour moi.
Merci
Merci à vous
encore et
deux. Merci beaucoup.
excellent samedi à tous.
Merci. Au revoir.
Bye bye.